Vos dents se sont-elles décrochées cette nuit de votre mâchoire? Avez-vous été attaqué par des serpents? Avez-vous fait l'amour avec votre patron? Avez-vous perdu vos papiers d'identité ou avez-vous chuté depuis le sommet d'une montagne? Bref, de quoi avez-vous rêvé? Chaque nuit, des scénarios très différents se mettent en place. De quoi sent-il le reflet? Comment peut-on les interpréter? L'ethnopsychiatre Toby Nathan s'intéresse depuis plus de 45 ans aux rêves de ses patients. Il publie chez Odile Jacob un livre conçu comme un manuel dans lequel il décrit nos rêves comme des espaces de liberté et de fusion intellectuelle. Il est mon invité dans un instant et vous pouvez dès à présent lui envoyer vos messages sur le site de l'émission. À la une de la science, les oiseaux de l'Arctique confondent les microplastiques avec du plancton. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, c'est la conclusion d'une étude française sur les mergules nains qui font leur nid dans l'Atlantique Nord. On passe leur repas au crible dans un instant à la une.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Toby Nathan.
Bonjour Mathieu Vidard.
À quoi rêve un ethnopsychiatre la nuit, s'il vous plaît?
Déjà, est-ce que je peux vous dire une chose?
Dites-moi.
C'est que je ne suis pas ethnopsychiatre.
Qu'est-ce que je dis?
Si, non mais c'est bien de dire, oui. C'est-à-dire que je suis psychologue,
oui.
Et mon domaine de recherche c'est l'ethnopsychiatrie. Mais l'ethnopsychiatrie c'est pas du tout de la psychiatrie, vous voyez. C'est-à-dire, ethnopsychiatrie c'est comme vous dites ethnomédecine, vous voyez. Ethnomédecine c'est pas des médecins, c'est la médecine des gens qui sont pas médecins.
Alors comment je vous présente?
Psychologue.
À quoi rêve un psychologue la nuit, Toby Nathan?
Il rêve beaucoup. Il rêve beaucoup et depuis que j'ai écrit des livres sur les rêves, je rêve beaucoup plus.
C'est vrai.
Ah ouais, non, mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire et ça, il y a une leçon à tirer de cette affaire, c'est-à-dire que je rêvais comme tout le monde, j'imagine, et puis d'ailleurs je rêve toujours comme tout le monde, mais depuis que j'ai écrit ces livres, je fais un rêve, je me réveille, je me souviens de mon rêve, je me rendors, je refais un rêve, je me réveille, et ça deux fois, trois fois, quatre fois dans la nuit, quoi.
Ouais.
Et c'est-à-dire que plus on s'intéresse aux rêves, et plus on voit ses propres rêves.
Oui.
Et c'est-à-dire que c'est pas une histoire de nature d'être prédisposé à ça, c'est une histoire de porter son attention sur, en
fait. Et ça, je vous le confirme, parce que même après la lecture de votre livre,
c'est vrai,
il se passe des choses dans la tête de ses lecteurs.
Formidable.
Il s'est passé des choses dans la tête des membres de l'équipe de l'émission.
C'est vrai.
Qui ont lu votre livre. Absolument. Oui, oui,
bon,
tout à fait.
D'accord.
Et comme on rêve de choses très fondamentales,
je suis heureux
ou philosophiques ou métaphysiques, c'est plutôt bon signe.
C'est vrai.
Allez, on se retrouve dans un instant pour explorer ses rêves avec ce livre, Les secrets de vos rêves, chez Odile Jacob, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. A tout de suite, Toby Nathan.
A tout de suite.
La pollution des mers par le plastique est donc à la une de la science avec le cas du mergule nain, oiseau marin qui est le plus abondant en Atlantique Nord et qui prend les microplastiques pour du zooplancton. Bonjour Françoise Amélineau.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes doctorante au Centre d'écologie fondamentale et évolutive de Montpellier. Pourquoi d'abord est-ce que vous vous êtes particulièrement intéressée à cette espèce d'oiseau qui élève donc ses petits dans l'Arctique?
Alors en fait, on l'étudie dans le cadre d'un programme financé par l'Institut Polaire, et parce que c'est un oiseau qui vit à proximité de la glace de mer et dans un environnement qui est très sujet au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on a pu voir qu'il y avait des microplastiques dans la nourriture qu'ils ramenaient à leurs petits. D'où cette étude.
Comment est-ce que vous faites précisément pour connaître le contenu de cette nourriture ramenée aux petits?
Alors en fait, ils ramènent leur nourriture dans une poche située sous la langue et on les attrape à la colonie au moment où ils rentrent pour donner la nourriture à leurs poussins. Et en ouvrant leur bec, on peut facilement récupérer les proies qui s'y trouvent, du zooplancton. Et ensuite, au laboratoire, on l'analyse sous une loupe binoculaire pour identifier les espèces.
À quoi il ressemble cet oiseau, Françoise Amélineau, exactement?
Alors, il est de la famille des alcidés comme les macareux ou les guillemots. Il fait 150 grammes, donc il est vraiment petit, d'où son nom, le mergule nain. Il est noir et blanc et adapté à la plongée.
Oui, alors c'est ça, c'est un excellent plongeur apparemment, hein.
Oui, il se nourrit dans la colonne d'eau et il peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur.
50 mètres.
Ce qui est original dans vos travaux, c'est que pour vous, la présence de ces plastiques dans les repas n'est pas là par hasard. En gros, ils chassent du plastique.
Alors, ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que on a pu à la fois prélever la nourriture que les mergules ramènent à leurs poussins et le plancton en mer. Et on s'est rendu compte que la proportion de plastique clair était plus importante dans la nourriture des mergules qu'en mer. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent les microplastiques de couleur claire. Et ça voudrait dire donc qu'il y a un comportement actif de capture de ces plastiques. Et probablement, ils les confondent avec leur proie.
Elles ressemblent vraiment, leur proie, à des tout petits morceaux de plastique, enfin, en tout cas quand vous regardez ça au microscope?
Alors, ça ressemble pas directement, mais c'est vrai que, par exemple, le reflet de la lumière sur du zooplancton, ça peut avoir le même aspect qu'un petit filament de plastique où la lumière se reflète. Ou alors, ça peut également se confondre avec une antenne de copépode ou des appendices.
Françoise Aminot, excusez-moi parce que je reviens à cette histoire de plongée, moi, qui me fascine totalement. Vous nous avez dit 50 mètres de profondeur pour ce tout petit oiseau. Mais ça veut dire qu'il est capable de rester combien de temps dans l'eau de l'Arctique?
Alors, les plongées ne durent pas très longtemps, c'est 1 à 2 minutes environ. Donc, il est capable, pendant cette durée, de descendre. Alors, 50 mètres, c'est vraiment le record qu'on a pu enregistrer. C'est plutôt couramment dans les 20 à 30 mètres.
Ouais.
Et donc, en 1 à 2 minutes, il a le temps de descendre, de se nourrir et de remonter.
C'est pas mal, quand même, l'apnée d'un oiseau à 2 minutes dans les eaux froides de l'Arctique.
Vous êtes allé vous-même en Arctique pour faire ces collectes?
Oui, j'ai fait 3 saisons de terrain au Groenland.
D'accord. Comment vous avez démarré ces études d'ailleurs, Françoise Amélineau? Vous étiez particulièrement intéressée par la problématique du plastique ou ça a été un peu le hasard?
Alors en fait, c'est arrivé au cours de ma thèse. À la base, mon sujet de thèse, c'est de regarder les impacts du changement climatique sur cet oiseau.
Mmh.
Et en étudiant leur nourriture, je me suis aperçue qu'il y avait des petits morceaux de plastique dans le plancton que j'étudiais. Enfin, entre les individus de plancton. Et à partir de là, j'ai donc travaillé en collaboration avec Delphine Monnet de l'Université de Montpellier pour quantifier les microplastiques à la fois dans la nourriture des mergules et dans l'environnement.
Donc c'est le mergule qui vous a fait bifurquer sur une autre voie de recherche.
Voilà.
Est-ce que vous êtes capable de tracer l'histoire de ces plastiques, de savoir d'où ils viennent, à quoi ils ressemblaient quand ils étaient encore sous forme macroscopique?
Alors, la plupart des microplastiques qu'on a trouvés dans les mergules et dans l'environnement de l'Arctique, c'était des filaments, donc plutôt des formes très allongées. Et on a étudié la nature de ces plastiques, donc quel était le polymère dont ils étaient composés. Et donc ça nous permet de savoir que c'était principalement des emballages plastiques, des films plastiques et des fibres textiles qui composaient ces microplastiques. Et donc ça provient de la dégradation de plastiques de plus grosse taille qui ont été déversés dans la mer via les rivières et amenés jusqu'en Arctique par les courants marins.
Comment ça se fait qu'il y en ait autant en Arctique du plastique, en tout cas jusque dans les eaux? Vous parlez de 3 ou 4 morceaux par gramme de nourriture, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça qu'on a trouvé. Donc il y a une étude récente qui a montré que la glace de mer, la banquise, pouvait servir de puits au plastique avec des microplastiques qui sont piégés quand la glace se forme et qui sont relargués au moment où la glace, au moment de la débâcle. Et l'endroit où on a étudié les mergules, c'est à l'est du Groenland. Et c'est par là que se vide la glace de l'Arctique via les courants marins. Et donc, ça serait possible qu'il y ait une certaine concentration des microplastiques via la glace à cet endroit-là.
Donc, vous êtes allé à plusieurs reprises sur place pour étudier ce phénomène?
Alors, cette étude a été faite sur 2 ans. On va tous les ans étudier la colonie de mergules, mais les prélèvements en mer ont pu être faits seulement en 2005 et en 2014. Et on a effectivement vu des changements entre ces 2 années, avec une augmentation des microplastiques en 2014 par rapport à 2005. Donc c'est soit dû à l'augmentation globale des microplastiques dans l'océan, soit dû à la présence de glace, parce qu'en fait en 2014, il n'y avait pas du tout de banquise dans l'endroit où se nourrissaient les mergules, alors qu'il y en avait en 2005. Donc si la glace piège les microplastiques, ils ont pu être relargués en 2014 et donc plus présents dans l'environnement et plus consommés par les mergules en l'absence de glace.
Allez, dernière question,
oui,
Axel.
On parle de l'oiseau depuis tout à l'heure, mais ce zooplancton lui-même qui vit en présence de plastique, est-ce qu'il est impacté par la présence du plastique?
Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu regarder à l'échelle de notre étude, mais il y a d'autres études qui montrent que oui, à l'échelle du zooplancton, il y a aussi une contamination possible par des microplastiques, donc de taille inférieure à ceux, bien sûr, consommés par les mergules. Et donc, il y a également une bioaccumulation qui peut se faire au cours de la chaîne alimentaire, parce que les mergules, par exemple, ils vont consommer du plastique également via leurs proies, qui auront consommé des morceaux plus petits.
Ça pose un problème de toxicité pour cet oiseau, aussi, le fait d'ingérer autant de plastique?
Alors, à cette étape de notre recherche, on peut pas encore le mesurer, mais on sait que les microplastiques sont porteurs de polluants. Donc, cela peut effectivement avoir des impacts parce qu'ils vont être davantage soumis à des polluants.
Bon, ben donc on a besoin encore de vos recherches, hein, Françoise Amélineau, pour en savoir plus sur ces phénomènes qui concernent maintenant l'ensemble de la planète. Hein. Merci beaucoup à l'occasion de cette publication donc, qui est parue cette semaine. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
À demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, d'autres oiseaux, d'ailleurs, que ceux de l'Arctique, fidèles à leurs compagnons d'hivernage. Une étude originale montre que les couples de mésanges qui s'installent pour se reproduire au printemps établissent leur nid à proximité de leurs amis. Ils organisent leurs limites de territoire de sorte que leurs voisins restent globalement les mêmes que pendant l'hiver. Les résultats donnent de nouvelles perspectives sur le comportement social des oiseaux et démontrent que les interactions peuvent être fines et façonner d'autres aspects que ceux liés à la reproduction. Un tétraplégique retrouve l'usage de ses bras grâce à des cellules souches. Il s'appelle Christopher Bozen. C'est un Américain de 21 ans. Il a subi une opération en avril dernier. On lui a injecté dans la moelle épinière 10 millions de cellules souches neuronales programmées pour devenir un type particulier de cellules nerveuses. 2 semaines après l'injection, les premiers signes d'amélioration de la fonction motrice sont apparus. 3 mois après, Christopher est capable de se nourrir seul, d'utiliser son téléphone portable, d'écrire son prénom, de conduire son fauteuil roulant électrique ou encore de prendre ses proches dans les bras. Il devra encore passer des tests régulièrement pour suivre bien sûr l'évolution de cette injection de cellules souches. Une météorite de 30 tonnes vient d'être découverte en Argentine. Il s'agirait de la 2e plus grande météorite au monde après celle d'Oba de plus de 50 tonnes découverte il y a un siècle en Namibie. Le cratère se trouve à Campo del Cielo, donc en Argentine, frappé il y a environ 4000 ans par une pluie de météorites. Et puis une grenouille qui fait le buzz sur les réseaux sociaux alors qu'il se promenait dans le parc national de la montagne de la Table en Afrique du Sud. Un homme a entendu un cri qui provenait d'un spécimen de grenouille endémique. Gonflé comme un ballon de baudruche, l'animal que vous allez entendre pousse tout au long de la vidéo des cris effrayants jugés hilarants par les internautes. Voilà le cri de cette grenouille, plutôt effrayant, et il s'agirait, selon certains comportementalistes animaliers, d'une manifestation de son stress. À vous de juger. Allez, Toby Nathan est notre invité dans un instant pour parler de nos rêves.
Tell him what you need.
The Last Shadow Puppets, à l'instant avec Miracle Aligner.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Toby Nathan, vous êtes notre invité et vous dévoilez les secrets de nos rêves dans un ouvrage publié chez Odile Jacob. Vous êtes professeur émérite de psychologie à Paris 8 et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé l'attaque. Quoi de neuf d'abord au pays des rêves depuis Sigmund Freud, Toby Nathan?
Beaucoup.
on reprend toute l'histoire, non?
On reprend toute l'histoire.
Non,
mais enfin, je veux dire, il y a eu un grand mouvement, une révolution dans les années 60, qui a été considérable en fait, hein, quand on a découvert le sommeil paradoxal et qu'on a compris que dans le sommeil paradoxal, bon, c'est le temps du rêve, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on ne rêve que durant le sommeil paradoxal. On sait maintenant qu'on rêve aussi à d'autres moments du sommeil. Mais c'est quand même le temps du rêve, c'est-à-dire que c'est là que se déroulent les rêves les plus longs et les plus complexes, en fait. Hein.
Ouais.
Donc, ça signifie qu'on rêve de manière instinctive. C'est un instinct, c'est-à-dire que tout le monde rêve. Que vous ayez des désirs, vous n'ayez pas de désirs, que vous ayez des problèmes, pas de problèmes. De toute façon, vous rêverez, c'est un instinct. Que vous rêvez la même durée, vous, moi, n'importe qui.
Alors ça, j'étais extrêmement surpris en vous lisant. Vous dites 90 minutes par nuit?
Non, en tout, ça fait à peu près...
90
ça,
minutes de rêve.
Oui, et on rêve toutes les 90 minutes, en fait. Hein.
C'est un long métrage, quand même, qu'on se fait toutes les nuits.
Oui, et c'est assez surprenant. La psychanalyse, vous demandiez qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis la psychanalyse. Il y a d'abord cette idée que c'est pas de notre fait qu'on rêve, quoi, que c'est un instinct, et que c'est quelque chose qui nous vient de toute façon. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, on devrait changer notre vocabulaire. En français, on dit « j'ai fait un rêve », comme si on était responsable, qu'on était actif dans le rêve. On n'est pas actif, c'est quelque chose qui nous est imposé par notre nature, en quelque sorte, et qui nous est projeté devant les yeux, parce que les yeux sont extrêmement importants dans le rêve, qui nous est projeté comme ça dans la nuit, et que nous prenons comme spectateurs. Très souvent, nous sommes acteurs aussi dedans, un peu. Nous sommes spectateurs surtout, et nous ne sommes surtout pas réalisateurs de ce rêve. Et ça, c'est très important. Par exemple, en arabe, on dit « j'ai vu un rêve », ce qui est beaucoup plus correct que « j'ai fait un rêve », ou « j'ai eu un rêve », c'est encore acceptable, ou, comme disent les Indiens d'Amérique, c'est quand même ce que je préfère, c'est « rêve est venu me visiter », et ce qui correspond le plus à la réalité, en fait.
Est-ce que l'interprétation des rêves de Freud a été totalement remise en question, justement, Toby Nathan ?
Par qui? Je veux dire, il faut quand même que, déjà, il faut le lire, quoi. Parce que c'est un livre très personnel. C'est une autobiographie, l'interprétation des rêves de Freud. Il parle de ses propres rêves, quoi. Et il y a quelque chose que, moi, je trouve, qui est resté du livre de Freud. C'est la façon de désarticuler les rêves, de le démonter, le démontage du rêve. Ça, je pense que il a apporté quelque chose d'important dans la technique de démontage du rêve. Mais tout ce qu'il dit de la fonction du rêve, des motifs du rêve, tout ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Quoi. Ouais, ça correspond pas à nos connaissances.
Sur l'inconscient, par exemple, le rêve n'est pas une manifestation de l'inconscient?
Mais je sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites inconscient, je sais pas ce que vous voulez dire. Si vous dites inconscient au sens où, par exemple, la grammaire est inconsciente, vous parlez, vous vous dites pas, il faut que j'applique telle règle de grammaire, c'est automatique. Et donc, elle est inconsciente, elle est sous votre texte, et elle organise votre texte. Elle est inconsciente.
Je pensais que ça voulait dire quelque chose, moi, en
psychanalyse. Dans ce sens-là.
L'inconscient.
Dans ce sens-là, inconscient, ça a un sens. Mais inconscient au sens de Freud, c'est-à-dire quelque chose qui a été refoulé de manière volontaire, ça, personne n'y croit plus. Enfin,
Et donc, le rêve n'est pas le support de l'émergence de ce refoulement.
Non, certainement pas.
Johanna demande, quel est le lien, justement, entre l'interprétation des rêves et l'activité cérébrale réelle? Alors, vous parlez des yeux.
Alors, moi, je suis pas neurologue, hein, je veux dire, mais je me suis beaucoup renseigné là-dessus, et évidemment, je me suis inspiré des découvertes de la neurologie pour proposer une interprétation des rêves modernes, je dirais. D'abord, la première chose, c'est que c'est très surprenant le sommeil, hein, parce que quand on descend dans le sommeil, on perd peu à peu notre contact avec la réalité, c'est-à-dire on perd nos innervations, on perd nos sensations. On perd notre tonus musculaire, et quand on a tout perdu, et c'est pas par palier, en fait. Hein, premier palier, deuxième palier. C'est comme si on plonge, comme on fait de la plongée sous-marine.
Avec le corps qui perd en température aussi. Bien sûr.
Température aussi. Troisième palier, quatrième palier. Et quand on arrive au quatrième palier, tout d'un coup, il y a quelque chose de très étrange qui se passe. C'est que votre cerveau se réveille, vos yeux se mettent à bouger, et votre sexe se réveille aussi. Toujours.
Ouais.
C'est-à-dire que vous ayez des rêves sexuels ou pas, votre sexe se réveille. Alors ça, cette chose-là, évidemment, c'est une activité cérébrale automatique. Donc évidemment que ça a une relation obligatoire entre cette activité cérébrale et la production du rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que nous sommes encore au début de la compréhension de ce fonctionnement. Mais apparemment, il semble à peu près clair qu'on voit un rêve. C'est pour ça que les yeux se mettent à bouger. Ils se mettent à bouger d'autant plus intensément qu'on est étonné par le rêve. C'est-à-dire qu'il est fondamental, et c'est même une des caractéristiques du rêve, que le rêve ne corresponde pas à ce qu'on voit habituellement dans la réalité. Il vous propose une réalité nouvelle, une réalité inattendue. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est une de ses fonctions, c'est de vous renouveler votre regard sur le monde.
Et on peut suivre les mouvements oculaires. Hein, vraiment, dans les expériences qui sont menées, pendant le rêve, on voit que les yeux suivent l'action quasiment.
Ça se discute parce qu'il y a quelques rêveurs qui sont extraordinaires, qui sont restés dans l'histoire, en particulier ce rêveur de Dement, Dement c'était ce chercheur américain qui est un des découvreurs du sommeil paradoxal, qui avait les yeux qui bougeaient de manière régulière, tac, 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 comme ça, et on lui a demandé à quoi il rêvait, il était en train de regarder une partie de tennis, quoi. Donc,
l'exemple est probant.
Oui, bon. L'exemple est probant.
Ouais. 1972, voilà ce qu'on disait sur les rêves, Toby Nathan, dans un rendez-vous qui s'appelait « Les grands problèmes de la psychologie ».
Est-ce que pour vous, le rêve fait partie de la psychologie?
Je crois parce que... Enfin, il m'arrive de rêver, parfois c'est complètement incohérent. Et puis, j'y pense et je me rends compte qu'il y a beaucoup de relations entre des choses que j'ai un peu en moi. Enfin, j'arrive à me découvrir par le rêve.
Est-ce que vous rêvez souvent?
Très souvent.
Je rêve toutes les nuits.
Non, très peu.
Oui, énormément.
Et à chaque fois, assez longtemps?
Ben, je ne sais pas, enfin, les gens disent en général que le rêve est très court, qu'il dure un dixième de seconde ou une seconde, mais ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. Parce que chez moi, c'est très long.
Voilà, et c'est très long. Il avait raison, ce monsieur.
Oui, il avait raison.
C'est vraiment très long.
Il avait raison.
Ouais.
On rêve, la première période, c'est... Enfin, je veux dire, si on s'en tient au sommeil paradoxal seulement, la première période, c'est entre 7 et 10 minutes, et la dernière période, c'est 20 minutes. C'est vraiment, chez tout le monde, pareil, quoi.
Ouais.
C'est ça qui m'a le plus impressionné.
C'est ça, ouais.
C'est le caractère automatique, instinctif. C'est, je veux dire, il faut vraiment avoir des médicaments très spéciaux qui sont un certain nombre de médicaments ou avoir subi des électrochocs pour qu'on n'ait pas ces périodes de rêve, quoi. Sinon, tout le monde rêve autant.
Et dans tous les pays.
Et dans toutes les cultures, et dans tous les pays, et dans toutes les cultures. Et ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, c'est que la plupart des cultures ont des systèmes de traitement de leurs rêves. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces rêves? Et la nôtre, non.
Ouais.
Et ça, c'est assez étonnant quand même. C'est-à-dire qu'à peu près partout, on rêve et on utilise le rêve pour quelque chose dans la vie concrète. Alors, tu as rêvé ça, tu vas le raconter à quelqu'un qui va te dire, bon, ben, puisque tu as rêvé ça, il va falloir que tu changes ta vie de cette manière ou de telle autre manière. Alors ça dépend, hein, c'est pas toujours les mêmes choses, mais ça existe partout.
Mais ça c'est une sacrée responsabilité quand même pour un psy, justement Toby Nathan, l'interprétation des rêves de son patient. Parce que vous dites bien qu'un rêve mal interprété peut avoir des conséquences catastrophiques aussi. Donc on a besoin d'un tiers pour analyser ses rêves, mais qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, je sais pas bien quelle est votre question.
La responsabilité vraiment du...
Je vais la décomposer
si
vous me permettez.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, interpréter un rêve... Il faut savoir ce que ça veut dire, interpréter un rêve. Je ne pense pas, et je pense que ça doit être une opinion majoritaire aujourd'hui, je veux dire, chez des gens qui font des recherches sur les rêves, je ne pense pas que le rêve ait une signification. C'est-à-dire, les rêves n'ont pas de signification automatique, je veux dire. C'est pas parce qu'on a rêvé ça que ça veut dire ça. Les rêves sont une contrainte à l'interprétation. Et donc, ils appellent l'interprétation. Donc, un rêve, à un même rêve, il peut y avoir plusieurs interprétations possibles, et je dirais même une infinité d'interprétations possibles. Maintenant, évidemment, c'est l'interprète qui va conduire le rêveur vers une solution ou une autre. Et donc, sa responsabilité est énorme. Donc, je peux donner un conseil, si vous voulez. C'est de faire attention à choisir un interprète qui est bienveillant, qui ne veut, vous veut pas du mal. Bon, c'est parfois difficile à repérer, hein. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut, vous voudrait du mal, même s'il ne le sait qu'à moitié, même s'il le cache, ça se verra dans son interprétation et ça aura des conséquences dans votre vie.
D'où la responsabilité et l'importance de bien choisir la personne qui va vous accompagner
Alors,
dans ce travail.
Pas bien interpréter le rêve, c'est bien choisir l'interprète du rêve.
Les mots sont importants. Voilà. Marjorie nous dit sur Facebook, Toby Nathan, je ne crois pas à l'interprétation des rêves, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils traduisent ce que nous avons fait, vu, entendu les jours précédents, ainsi que nos émotions. Qu'en pensez-vous?
Alors, bon, deux choses. D'abord, elle a raison sur un point, c'est que les rêves reprennent des éléments des jours précédents, bien sûr. Ils reprennent... Voilà comment fonctionne un rêve, on sait à peu près. C'est-à-dire, tous ces éléments qui sont parfois sans importance, par exemple, je ne sais pas, la couleur de votre chemise, par exemple, ou la forme de votre casque, ou un truc comme ça, ça va rester dans ma tête, mais comme un détail. Et tous ces détails vont s'amalgamer pour fabriquer quelque chose au bout du compte. Et c'est vrai qu'on a pêché des petits détails comme ça, et avec lesquels on va constituer une image en patchwork, si vous voulez. Et de ce point de vue, elle a raison. C'est-à-dire qu'on réutilise les éléments de notre vie éveillée. Pas forcément de la veille, d'ailleurs. On a remarqué que les éléments les plus présents, ce sont ceux qui ont eu lieu 7 jours auparavant. Donc, c'est
il y a un petit temps d'incubation.
C'est ça, c'est un stock.
Ouais.
Bon, ça, c'est certain. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ces éléments-là, on va venir mettre en scène des questions qui sont des questions intellectuelles. Et je ne pense pas du tout que ce soit des émotions qui sont mises en scène. Ce sont des questions intellectuelles. Les rêves brasse des idées extrêmement complexes. Je vais vous donner quelques exemples, si vous me permettez. C'est, par exemple, ça brasse des idées comme... par exemple, moi, j'étais très étonné du fait que les gens rêvent beaucoup de leur ex. De leur ex-femme, de leur ex-mari, de leur ex-maîtresse, d'une jeune fille qu'ils ont connue quand ils étaient adolescents, mais ça ne s'est pas concrétisé. De ces choses qui n'ont pas eu lieu. Comme si... Il disait, mais si j'avais choisi ce chemin-là, j'en serais où aujourd'hui? C'est les embranchements de la vie. C'est donc des questions théoriques de fond, quoi. C'est presque de la métaphysique, les rêves, hein. Et donc, l'émotion est assez secondaire. Elle est un élément du rêve. Elle n'est pas le moteur du rêve.
Allez, on y revient dans un instant avec vous, Toby Nathan. Les secrets de vos rêves, c'est chez Odile Jacob. Et beaucoup de messages pour vous sur le site de La Tête au Carré. Ben oui, ça passionne tout le monde. Franceinter.fr.
Tu as de quoi qui s'érige. laissera ta peau. Roule dans la brume, roule. Mais si, Pouchy m'a appelé.
Il n'est pas vrai, maman.
Il a travaillé ou il n'a pas travaillé?
J'ai travaillé toute la journée, à mon rêve. Je suis très fatigué.
Depuis qu'il a 6 ans, il a ses épisodes d'inversion, réalité. Oui. Combien de fois j'ai retrouvé dans son lit, couvert de vomi, persuadé que ses mains étaient grosses comme des immeubles.
Des maisons, maman, pas des immeubles.
C'est très fatigant, le rêve. Les rêves ont des cycles. T'as le sommeil lent, t'as le sommeil profond et t'as le sommeil paradoxal.
Et c'est un film qui s'appelle La science des rêves, réalisé par Michel Gondry en 2006. Toby Nathan, notre invité donc pour ce livre Les secrets de vos rêves, chez Odile Jacob. D'abord, on peut souligner les illustrations, hein, ces dessins qui sont réalisés par Héloïse Odos, hein,
ouais,
c'est son nom, qui fait un très,
très
beau boulot.
Dessin, ouais.
Et ces rêves que vous avez sélectionnés, puisque c'est une sorte de manuel hein, pour ouais, nous emmener sur le chemin des rêves, ce sont des rêves de lecteur au départ. Hein.
Ouais, c'est-à-dire, je tiens une chronique dans une revue qui s'appelle Psychologie Magazine, où le lecteur peut envoyer des rêves. Donc j'en reçois plusieurs dizaines tous les mois. Mmh. J'en sélectionne et je téléphone à la personne et j'ai une très longue discussion avec elle. Et à la suite de quoi, je rédige une proposition d'interprétation. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est le fait que ces gens, je les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. J'ai eu une très longue conversation avec eux, mais je voudrais les remercier parce qu'ils sont d'une ouverture et d'une confiance. En fait, ils me connaissent pas, je les connais pas, quoi. C'est très étonnant. Puis je voudrais remercier aussi la revue Psychologie Magazine et la rédactrice avec qui j'ai travaillé. C'était une expérience fascinante, quoi.
Les gens vous écrivent beaucoup de détails, justement, autour de leurs rêves.
Certains, ouais. C'est très, très détaillé. C'est pas cela que je retiens, parce que j'ai une page dans le journal, alors donc, j'ai pas de place. Parfois, ils écrivent des pages et des pages. Ouais. C'est étonnant. Et ça attire l'attention sur le fait qu'au fond, les rêveurs n'ont pas d'interlocuteur dans notre monde. C'est-à-dire, on sait peut-être pas à quoi vraiment sert le rêve, mais ce qu'on sait pas faire dans notre monde, c'est qu'on sait pas s'en servir, quoi. Du coup, il n'y a pas d'interlocuteur pour les rêveurs, et sitôt que vous leur dites, ah, y a un interlocuteur ici, tout d'un coup, c'est la cohue un peu, quoi. Il y a beaucoup de monde.
Toby Nathan, beaucoup de messages pour vous. Cette question tient de Nina qui revient à plusieurs reprises. Si les yeux sont si importants pour rêver, à quoi rêvent les personnes aveugles, par exemple?
Alors, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont aveugles parce qu'ils sont devenus aveugles, quoi, et qui n'ont pas toujours été aveugles. Et puis, on s'est demandé longtemps si les aveugles de naissance rêvaient avec les yeux. Mmh. Quoi. Et oui, ils rêvent avec les yeux. C'est-à-dire que les aveugles, pendant les rêves, voient. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que l'innervation, le rêve se passe à l'endroit de l'innervation oculaire, même si il n'y a pas eu de vision à aucun moment de l'existence de cette personne, quoi. Ça, c'est très, très important et ça permet de comprendre que l'organe œil est important dans le rêve, l'organe lui-même et son innervation, bien sûr.
Louis demande, est-ce qu'il y a continuité, une sorte de passerelle entre la vie diurne et la vie onirique dans les lieux, les personnes ou les actions?
Alors, comment vous répondre? Oui, parce qu'il y a des interprètes. Parce qu'il y a des interprètes de rêve.
Qui font ces passerelles,
justement. Qui font ces passerelles. Ouais. Mais en même temps, si un rêve s'est passé correctement, en fait, la plupart des rêves, on s'en souvient pas. Pour la plupart de nos rêves. C'est-à-dire qu'un rêve, normalement, a changé votre regard sur le monde et vous a proposé une nouvelle vision, même un tout petit peu nouvelle sur le monde. Il a renouvelé votre regard sur le monde et à ce moment-là, vous abordez votre journée un peu plus heureux que la veille, en fait. Et là, il a fait son boulot. Donc, le rêve En fait, moi j'ai l'habitude de dire qu'un rêve commence dans la nuit et se termine dans la journée, éveillé, quoi.
Oui, c'est ça.
Normalement, un rêve doit avoir un accomplissement dans la vie réelle. Ces rêves dont on se souvient, qui insistent, qui se répètent, sont des rêves qui n'arrivent pas à trouver de débouché. Mmh. Et ceux-là ont impérativement besoin d'un interprète.
Jean-Patrick demande si on est capable de manipuler ses rêves, alors, parce que vous nous disiez que c'est
très compliqué.
Personnes,
oui. Ouais. Certaines personnes, oui. Ouais. Il y a des rêveurs vigiles, ce qu'on appelle des rêveurs vigiles, qui sont capables, qui sont un peu conscients au moment de leurs rêves, relativement. C'est une nature, quoi. C'est une personnalité particulière. On ne sait pas à quoi ça tient, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et qui parfois même on peut communiquer avec eux pendant qu'ils rêvent. C'est-à-dire que on leur demande de faire des signes alors qu'on est totalement paralysé. Ils peuvent juste lever le petit doigt ou quelque chose comme ça. Et on leur dit, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es en train de rêver? Alors là, ils lèvent le petit doigt et on sait qu'ils nous perçoivent. Mmh. Cela manipule leurs rêves. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur dit, si tu peux manipuler ton rêve, qu'est-ce que tu choisis de faire comme rêve? Et cela, ceux qui savent manipuler leurs rêves disent tous qu'ils préfèrent les rêves où ils volent.
Oui.
Mais parce que perdre son propre poids, c'est la chose la plus formidable du monde. Ouais. Quoi.
Alors, c'est la singularité du rêve aussi qui est très importante, selon la personne. Car nous avons tous des rêves, même si on fait tous des rêves de vol, de dents qui tombent, etc. Oui. Vous dites que chaque rêve est très singulier et qu'on ne peut absolument pas l'interpréter sur d'autres exemples.
Il faut bien distinguer les éléments du rêve, quoi. C'est-à-dire les dents, par exemple, ou la chute, ou bien la perte de son portefeuille, ou le fait qu'on est égaré dans un endroit public, enfin, tous ces rêves qui arrivent à tout le monde, parce que c'est des sensations qui sont arrivées à tout le monde. Ces sensations-là sont un des matériaux du rêve. Ça ne veut pas dire qu'on fait le même rêve. On utilise parfois les mêmes matériaux que son voisin. Mais chaque fois, ce rêve doit être interprété à partir de l'histoire propre de la personne et du problème, au fond, qu'il se pose à un moment donné de sa vie.
Oui. Donc, une dent, un serpent, très célèbre, justement, dans le vocabulaire du rêve, on ne peut pas du tout y mettre la même signification.
Il n'y a pas de symbole. C'est de la blague, ces histoires de symboles. C'est plus que de la blague, c'est du charlatanisme. Ces histoires de symboles oniriques, c'est-à-dire, on sait très bien d'où viennent les symboles. Par exemple, les symboles de serpent, ils viennent tous des interprétations grecques du rêve, parce que le serpent, chez les Grecs, c'est un ancêtre, parce que il habite la terre, quoi, et il sort d'un trou dans la terre, donc c'est forcément un ancêtre, c'est le propriétaire de la terre. Bon, mais ça, c'est les Grecs. Et vous, pourquoi est-ce que vous allez continuer à interpréter ça de cette manière? Vous n'êtes pas grec. Enfin, peut-être que vous êtes grec, excusez-moi, je ne sais pas. Non, grec antique en tout cas.
Non, ça c'est sûr. Je ne le fais pas. Mais...
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas possible d'interpréter les rêves comme ça. Il faut à chaque fois remonter avec la personne à ses questions, les questions qu'il habite à un moment donné de sa vie, et de voir comment le rêve propose une réponse singulière et l'accompagner pour essayer de trouver le conseil qui va avec. Je ne termine jamais une interprétation de rêve sans dire, puisque tu as fait ce rêve, je te conseille de faire ceci dans ta vie.
Le rêve pour nous aider à trouver des solutions aussi, on va en parler avec vous dans un instant. Toby Nathan, c'est la suite de notre discussion sur France Inter avec toujours les messages et les questions sur le site de La Tête au Carré. When you fall, Drive the cars à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Toby Nathan, notre invité cet après-midi avec les secrets de vos rêves chez Odile Jacob. Je crois qu'il y a un extrait justement qui était en train de partir, donc je vais vous laisser le découvrir tranquillement. Cet extrait d'une émission qui a été diffusée en 1976, médicale sur TF1.
À supposer que j'ai mangé quelque chose de trop lourd hier soir, quel genre d'angoisse est-ce que qui va s'exprimer dans le rêve? Il y a eu une expérience qui a été faite par Harvey de Saint-Denis au début du 19e siècle, au temps de Napoléon. Et l'histoire est la suivante. Ce sont deux amis qui dormaient dans la même maison. Pendant la nuit, une voiture est passée. Les roues rebondissaient sur les pavés. L'un des deux a rêvé que des amis venaient le chercher et l'emmenaient pour une partie de campagne, et l'autre a rêvé que la police venait et l'emmenait en prison. De sorte qu'il y a bien le même point de départ, mais que ce point de départ a résonné chez l'un et chez l'autre en fonction du psychisme de l'un et de l'autre. Donc le point de départ peut fort bien être une indigestion, mais l'indigestion chez vous et chez moi vont révéler ce que vous êtes et ce que je suis, au moins sous l'angle où l'indigestion vient comme tomber dans le psychisme et avoir une sorte de, enfin comme des ondes qui, d'une eau plus ou moins claire, plus ou moins trouble, plus ou moins épaisse.
Voilà, c'était le psychiatre Élie Humbert en 1976. Toby Nathan, les choses ont bien changé depuis.
Bon, c'est des points de vue qui sont, bon, d'abord c'est très français, hein, comme point de vue. Je raconte dans mon livre une anecdote. C'est c'était 1972. C'est ma première patiente et je lui ai dit
à quoi avez-vous rêvé
cette nuit, parce que moi je me suis toujours intéressé aux rêves, et elle m'a répondu non, j'ai pas rêvé, j'ai très bien dormi. Comme si le rêve c'était la marque de justement d'une indigestion, d'un mal-être, quoi.
Mais l'état physiologique n'influence pas du tout nos rêves.
Enfin, assez peu, en fait. En réalité, assez peu. Parce que je veux dire, vous savez, les choses sont. Pourquoi je disais c'est caractéristique de notre pays, parce que en France, le rêve a été maudit, en fait. Était maudit, hein. C'est-à-dire que les interprètes de rêves, il y en a eu beaucoup au Moyen-Âge, c'était des femmes, et il y a eu l'Inquisition, la lutte contre les sorcières, en France, en Allemagne, dans toute l'Europe, mais tout particulièrement en France. Et puis, après l'Inquisition, on a eu les lumières. Et les lumières, on dit, les rêves, c'est rien que des mécanismes physiologiques et puis rien d'autre que ça. Et donc, la France a beaucoup de mal à pénétrer l'interprétation des rêves.
Ah ben justement, il y a un auteur sénégalais qui nous écrit, il vous a entendu il y a quelques années à la radio, et vous avez attiré son attention lorsque vous avez dit que les Africains vivant en Europe, dans leur expérience, ne rêvaient jamais d'événements qui se sont produits justement en Europe. Et c'est mon cas, dit cette personne du Sénégal.
Alors, bon, ça m'étonne que j'ai dit « ne rêvait jamais », mais j'ai peut-être dit, ce que je pense d'ailleurs, que des gens qui ont émigré très souvent dans leurs rêves continuent à être dans le pays d'où ils proviennent. Mmh. Et ils vivent dans le pays où ils ont été migrés dans la journée, et la nuit, ils repartent chez eux, en fait. Hein, et ils repartent et ils continuent à avoir des drames, des résolutions de conflits, etc., dans leur monde d'origine, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez caractéristique des migrants.
Toby Nathan, justement, le contexte politique d'une société peut influencer les rêves des personnes.
Il pénètre le rêve.
Il y avait un exemple, justement, dans votre ouvrage de décapitation d'une femme qui rêve qu'elle se fait décapiter.
C'est vrai.
Beaucoup de gens relatent ça depuis quelques temps, en tout cas.
Absolument. C'est des choses qui frappent les gens et qui pénètrent les rêves. Et au fond, parce que le rêve a toujours comme fonction d'essayer de relier ça à des pensées profondes, quoi, à une philosophie. Et donc, il devine au fond l'ambiance. Et je vais vous donner un exemple, parce que c'est peut-être pas clair ce que je viens de dire. Il y a un livre célèbre qui a été écrit dans les années 30 par une psychologue allemande qui avait recueilli des rêves qui se présentaient à elle comme ça, parce que c'était même pas des rêves de ses patients, c'était des rêves de rêveurs. Et ces rêves contenaient une description assez précise des camps de concentration dont il n'avait pas connaissance à ce moment-là. Mais l'ambiance était telle qu'on devait supposer qu'il existait des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on avait poursuivi logiquement l'ambiance qui se dégageait de tous les moments pour en donner une vue plus précise, en quelque sorte. Le rêve fait ça.
Et alors, vous dites que le rêve, c'est une réflexion sur l'avenir. Ça, c'est vraiment très important. Hein, parce qu'on trouve des solutions dans les rêves.
On trouve des solutions dans les rêves, et ça, les savants le disent volontiers. Hein. Je discutais encore l'autre jour avec le savant que vous avez invité hier.
Alors, qui avions-nous hier à ce micro? Alors, ça y est,
qui a écrit un livre sur le vide, comment s'appelle-t-il?
Ah oui, Trinh San Thuan, pardon.
Ouais, j'arrive pas à prononcer son nom.
Absolument.
Et j'ai parlé avec lui il y a peu de temps, et où il m'a dit qu'en effet, quand il est coincé avec une équation ou quelque chose, je sais pas très bien, ça doit être très compliqué ce qu'il fait, mais quand il est coincé avec quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre, il se le dit le soir de dormir, et il se couche, et quelquefois, la solution apparaît en rêve. Et ça, c'est connu.
Il nous parlait de faire le vide, justement. C'était en lien avec l'émission sur le vide.
Oui, exactement.
Et ça l'aidait beaucoup dans son travail d'astrophysicien.
J'ai écouté à votre émission hier, et j'ai repensé à ça. Et ça, on a quelques exemples célèbres de la découverte de l'anneau du benzène.
Ah oui, sur le eureka du rêve, au fond, c'est ça. Hein,
exactement.
L'étincelle du rêve.
Ça peut arriver. Mais sinon, tous les rêves contiennent une proposition, une proposition de solution.
Alors ça, c'est important.
Mais simplement, il faut arriver à l'attraper. Ouais. Et c'est ça, la fonction de l'interprète de rêve, c'est d'arriver non seulement à l'attraper, à la comprendre intellectuellement, et ensuite à la reformuler sous forme de quelque chose de pratique dans la vie réelle, quoi.
Donc c'est un guide, au fond, un rêve.
Bien sûr.
Si on le suit convenablement,
bien sûr.
Toute la difficulté, c'est d'être bien guidé, justement.
Bien sûr, ça peut être un guide. C'est un guide. Et comme tous les guides, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais vous pouvez le suivre, en effet.
Mais c'est une sorte de machine qui permet d'élaborer des solutions. Je vous cite, mot pour mot.
Non, mais exactement, c'est une machinerie qui fabrique des solutions à des questions qui sont des questions de fond, qui ne sont pas des petites questions de l'existence. Ça, vous savez, les kabbalistes du Moyen-Âge, c'est bizarre, hein, ils faisaient ça, c'est-à-dire quand ils voulaient obliger Dieu à leur répondre à leurs questions. Alors, avant de s'endormir, ils se répétaient la même question des dizaines et des dizaines de fois, et puis ils s'endormaient sur la question. Il faut s'endormir sur la question. Et à ce moment-là, dit-on, Oui. Dieu apparaissait dans le rêve et leur disait « Regarde donc le verset un tel et tu trouveras ta réponse. »
On va essayer. Alors ce soir, on va penser à vous, mettre en pratique vos conseils, Toby Nathan. Pascal demande « Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à concrétiser les actions dans les rêves ? La jouissance, la bagarre, la mort ?»
Elle a raison. Elle a raison.
Pourquoi alors ?
C'est-à-dire que ce sont très souvent des actions qui sont initiées dans les rêves et qui n'arrivent jamais au bout. S'ils arrivaient au bout, je vais vous répondre par une citation d'Aristote. Aristote dit si je vous chatouillais par exemple, si je vous chatouille sous les aisselles, vous allez rire.
Oui.
Peut-être.
Ça va me gratouiller.
Oui, ça va vous chatouiller, vous allez rire. Mais si vous vous chatouillez vous-même au même endroit, vous n'allez pas rire.
Ben, j'essaye, vous voyez. Non, ça ne me fait pas
rire
du tout.
Ça ne vous fait pas rire du
tout.
C'est vrai. Exactement. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un
tiers, là aussi.
Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. C'est pour ça que l'action ne va pas jusqu'au bout, parce que le tiers est absent, en fait. À partir du moment où vous trouvez le tiers, à ce moment-là, eh bien, ça peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rire, par exemple.
C'est ça. Et Daniel dit, avec un peu d'entraînement, on peut influencer son rêve. J'ai pu apprendre à voler dans mes rêves à force de le vouloir.
Vous voyez.
On peut faire des trucs formidables.
Mais ça, c'est un rêveur émérite, si vous voulez.
Ah oui, c'est ça. Il faut beaucoup d'expérience.
Il faut beaucoup d'expérience.
C'est ça. Vous avez une belle expérience dans le domaine du rêve. Alors, ça veut dire que vous faites des rêves qui sont extraordinaires, Toby Nathan?
Moi, je trouve que mes rêves m'impressionnent. Moi, ils m'impressionnent beaucoup, mais ils n'ont rien d'extraordinaire.
Oui.
Et surtout, je ne suis pas un rêveur vigile. Donc, je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas mes rêves. Mais j'ai une attention très appuyé sur mes rêves. Ça m'intéresse beaucoup.
Et avec le nombre de questions que nous avons reçues, vous pouvez déjà écrire un deuxième volume de ce livre, Les secrets de vos rêves, Toby Nathan, qui paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci,
et on pensera à vous ce soir en se couchant.
J'espère que vous pensez à moi en vous endormant ce soir.
Certainement.